Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas
avec
Jacques.
Les quatre drôles de dames, Polo, Daniel et Edgar et Julien, on est ensemble jusqu'à 22h sur RMC. Il y a des matchs ce soir d'ailleurs, hein, qu'on va suivre, que vous suivrez les gars depuis chez vous dans vos pays respectifs. Aston Villa, Arsenal notamment à 21h. On aura le Barça qui joue contre le Rayo Vallecano et puis la Roma. Daniele, qui mène déjà 4-0, hein, alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. 4-0 pour la Roma, qui va très bien.
Elle gagnait 3-0 après 20 minutes. Malen, il a marqué. Vous avez parlé de Riquet, vous avez parlé de Mbappé, mais il y a un joueur en Italie qui a marqué 5 buts en 2 matchs quand même. Malen.
Daniel Malen, 4-0 pour la Roma sur le terrain de Lecce. Ça, on en parlera de la Roma, hein, qui fait son retour, grand retour en Ligue des Champions, qui va jouer d'ailleurs le PSG au Parc des Princes en phase de Ligue, qui va occuper la tête, hein, de la Serie A après 2 journées et sa meilleure différence de but sur l'Inter, plus 8 contre plus 4. On en reparlera bien sûr. La Roma de Gasperini. Julien, Tottenham est déjà dernier. Pas de panique. Dit De Zerbi, dit non mais attendez, on va pas paniquer. Oubliez le résultat, on a été battu par Newcastle. Restons tranquilles. Je rappelle que Tottenham a envoyé 370 millions d'euros environ sur le marché là pour l'instant. Pour l'instant, et c'est pas fini, hein, Julien, je crois. Même, hein. Même quasiment 400 millions d'euros.
C'est pas fini, ouais.
Des Tonali, des Matheus Fernandes, Van Eyck est arrivé, Savigny aussi. Pendant ce temps-là, Richarlison, Kevin Danso, Pape Matar Sarr, il a dit De Zerbi, ils veulent partir, hein. C'est ça. Hein.
C'est ça, ils font que de venir le voir pour lui dire qu'ils veulent partir absolument.
Attends, je les comprends.
En fait, ouais, le problème avec De Zerbi, je pense personnellement sur ce sujet-là, c'est lui qui commande maintenant. C'est-à-dire, c'est lui qui est en charge du recrutement avec son agent. Lui qui s'occupe
d'accord.
de tout ça.
Mais voilà, ça, c'est assumé, donné, c'est en fait, dit, c'est d'accord.
Tout à fait. Ils lui ont donné les clés du camion, comme aime le dire Polo. Et donc là, le camion, il le conduit pour l'instant pas très bien. Et tu vois, il est un peu sur la bande d'arrêt d'urgence et puis il tape un petit peu le rail de sécurité. Mais tu lui as donné, donc il fait un peu. En fait, c'est les joueurs qu'il veut. C'est aussi, s'il faut surpayer, ben ça surpaye. S'il faut donner à des Tonali, par exemple, qui est un très bon joueur, hein, Tonali, c'est un très bon joueur. C'est quand même 110 millions d'euros et c'est 350 000 euros par semaine pour Sandro Tonali.
Mon Dieu.
Donc à un moment, c'est sur lui. Alors après, si ça marche, c'est très bien. Il a eu les joueurs qu'il voulait, il a restructuré son effectif comme il le voulait. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent de ne pas avoir assez d'influence sur leur directeur sportif. Regarde ce qui se passe. Alors Marseille, c'est un petit peu particulier pour Genesio, mais on connaît plein d'entraîneurs qui arrivent dans des clubs et qui sont finalement pas trop impliqués dans le processus du recrutement, ou alors c'est en fin de processus justement. Pour De Zerbi, ça a été très clair dès le départ, c'est son recrutement, c'est son marché des transferts, c'est les joueurs qu'il a envie d'avoir, ou en tout cas ceux qui... Là, il est en train de rater Illiman Ndiaye, qui finalement devrait préférer aller à Manchester City qu'à Tottenham. Donc ils vont se rabattre peut-être sur un Mudryk par exemple en prêt de Chelsea parce qu'ils veulent encore un ailier. Mais voilà, c'est son mercato. Moi, si ça marche, très bien, j'applaudirais. Si ça marche pas, en revanche, et que Tottenham lui a donné tous ces pouvoirs là et qu'au final il fait n'importe quoi, là je pense qu'il aura beaucoup de comptes à rendre déjà, ce qui est tout à fait logique. Et en plus, on pourra critiquer encore plus. Mais voilà, cet investissement là du jamais vu dans ce club, hein, même après le départ de Bale, quand ils avaient réinvesti l'argent du Real, ou même après le départ de Modric, vous avez réinvesti l'argent en achetant 4, 5, 6, 7 joueurs à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec les sommes actuelles pour la reconstruction de cet effectif-là. Mais il y avait besoin, ça c'est sûr, d'une refonte quasiment entière de cet effectif-là. Je peux très bien le comprendre. Après, à voir si ça va marcher. Pour l'instant, c'est une défaite, une humiliation à Brentford, c'est 3-0, dingue. Et une défaite à domicile, 2-0. C'est-à-dire qu'en 2026, sur la saison, sur l'année... L'année 2026, donc pas la saison, mais l'année 2026, de janvier à décembre. Pour l'instant, ils n'ont qu'une victoire de plus que Hull City en Premier League. Et Hull City, ils sont remontés au mois de mai. Depuis leur nouveau stade, il y a 7 ans, Polo, je te donne cette dernière petite stat qui va te faire sourire. Depuis l'inauguration du nouveau stade de Tottenham, donc le Tottenham Hotspur Stadium, il y a 7 ans de ça, maintenant, ils ont perdu plus de matchs à domicile que depuis qu'Arsenal a quitté Highbury pour aller à l'Emirates il y a 20 ans. Donc 13 ans avant le nouveau stade de Tottenham. Et pourtant, Tottenham a déjà perdu plus de matchs en Premier League à domicile chez eux qu'Arsenal sur les 20 dernières années. C'est des chiffres qui sont hallucinants pour une équipe pareille, pour un club pareil, pour une fanbase pareille. Et pour l'instant, De Zerbi, en tout cas, est en grosse galère pour inverser la tendance.
Qui, je le rappelle, Tottenham s'est sauvé in extremis fin de saison dernière. Polo.
Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est que si on transposait Tottenham en Allemagne, j'imagine pas ce que dirait la presse allemande dans une logique de décence des investissements et des dépenses. Moi ce qui m'intéresse, c'est un, comment analyse la presse spécialisée britannique le cas de Tottenham, comme on pourrait se poser la question de Chelsea ces dernières saisons. Et je fais un parallèle historique. Lorsqu'on voyait les dépenses italiennes à l'époque où on pouvait dépenser des milliers, des cents, et qu'on avait des joueurs à la classe internationale qui se retrouvaient dans les tribunes parce qu'il n'y avait pas de place, ou il n'y avait pas de place pour assez d'étrangers et tout ça, tout le monde se moquait du football italien et des clubs italiens. Ça les empêchait pas de gagner au passage à l'époque. Mais moi, j'aimerais savoir comment la presse britannique, et j'ai même envie de dire le supporter de base ou pas, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas Tottenham, analyse cette situation qui est... Parce que si l'économie anglaise fonctionne comme le club de Tottenham, bon bah t'es à moins 10% de croissance par an, quoi. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant de voir ces dépenses systématiques. Ou de l'autre côté, je vois une presse britannique qui se félicite toujours des montants toujours plus hauts des transferts, etc. Donc je trouve il y a une forme, bon,
en tout cas,
pas de l'hypocrisie,
de la puissance de ces clubs.
Ouais, cas, c'est voilà. Ça. Moi je trouve ça toujours un peu un décalage entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement. Donc voilà, j'aimerais savoir comment la presse britannique en général. Ou alors s'il y a un mec ronchon, tu vois, un Paulo Breitner britannique, qui c'est quoi ces couillons.
Ah ouais, alors pas du niveau du talent de Paulo Breitner, mais il y a quelques voix intéressantes, on va dire, en Angleterre. Alors l'avantage que De Zerbi a pour l'instant, c'est que ça reste le début de saison et qu'on a joué que deux matchs, et que s'il est encore dernier dans quatre semaines par exemple, là c'est même plus que ça grondera, je pense qu'il sera parti de toute façon. Donc pour l'instant, une grande majeure partie des suiveurs, des observateurs continuent à dire c'est le début, c'est un très bon entraîneur, on le sait tous, même s'il peut être difficile à vivre au jour le jour dans sa façon de fonctionner ou dans les fantaisies qu'il peut faire de par sa personnalité, ce personnage-là. Ça reste un très bon entraîneur qui, normalement, surtout avec les joueurs qu'il a recrutés quand même, parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Et on l'a vu encore une fois contre Newcastle, la première période est pas du tout mauvaise. Ils ont quelques bonnes opportunités, même si c'est pas non plus des grosses occasions, mais ça peut bien bouger par moment. Tu sens un petit peu sa patte déjà dans la construction, dans certains mouvements sans ballon, dans certains triangles, ce genre de choses là. Donc il devrait y arriver. Pour l'instant, là où on lui donne un petit peu cette passe là, c'est que c'est le début de championnat et que il lui reste un match. Il va à Forest par exemple le week-end prochain. Forest, même s'ils ont fait match nul à Liverpool, ça reste quand même un match où Tottenham peut facilement aller gagner là-bas. Après, ils vont recevoir Everton. Donc voilà, pour l'instant, on se dit que ça va devoir. Mais il va y avoir du progrès.
Personne ne
peut. Mais ce qui gêne.
Vas-y, fini.
Non, ce qui gêne, et moi, ce qui me gêne énormément, il y a deux choses. Après le premier match à Brentford, donc l'humiliation 3-0, il nous dit on n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt, on perd, on n'est pas prêt, il n'y a pas d'agressivité. En fait, il dit il ne se passe rien, on n'est pas prêt. Excuse-moi, mais tu as repris 8 semaines plus tôt. Alors, t'as eu quelques joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde, certes, d'accord, mais t'as eu beaucoup de joueurs aussi qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Notamment, tes recrues, les Tonali, les Matheus Fernandez, etc., etc. C'est ta faute s'ils sont pas prêts pour un match à Brentford en début de saison, pour la première journée, où on sait très bien que Brentford, ils vont te rentrer dedans, ça va aller à 2000 à l'heure, c'est une des équipes les plus physiques, les mieux organisées, etc. Toi, t'es pas prêt non plus. Mais bon, encore une fois, mais on l'a dit plein de fois, c'est jamais de sa faute. Il remet l'excuse sur ses joueurs, ils n'étaient pas prêts. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit après Newcastle? Il nous explique que c'est un problème de mentalité. C'est dans la tête, et que la mentalité, ça s'achète pas dans le marché des transferts. Voilà, je suis désolé, je suis pas d'accord du tout.
Mais tu sais que ces excuses ressemblent à celles qu'il livrait sur la fin de à Marseille, quoi.
Mais qui nous disent la mentalité, ça s'achète pas.
De communication, et surtout, il n'est jamais responsable.
Ouais, ça c'est sûr. Mais sa phrase sur la mentalité, ça s'achète pas. Je suis désolé. Ça, c'est une énorme connerie.
Bien sûr,
parce que va chercher Granit Xhaka et regarde l'influence qu'il a eu dans la mentalité, tout simplement dans la mentalité. Avant de parler même du joueur qu'il est, l'impact qu'il a eu sur la mentalité à Sunderland. Va chercher un Bruno Guimarães. T'as voulu que tu as payé une fortune, on l'a dit tout à l'heure. Si tu voulais vraiment un mentality monster, comme disent les Anglais, prends Bruno Guimarães à la place. C'est bien plus fort mentalement que Tonali ne le sera jamais dans sa carrière. Donc cette ligne-là, encore une fois, pour trouver des excuses, c'était ouais, mais mentalement, en gros, ils sont pas prêts, encore une fois, et ça s'achète pas sur le marché des transferts. Je suis désolé, c'est pas vrai.
Moi, j'ai une question toujours économique, pas footballistique, on va dire. C'est-à-dire, moi, c'est pas la... Oui, il y a beaucoup d'argent, c'est un marché intérieur, les prix sont gonflés et tout ça. Mais il y a aussi des choses bizarres qui se passent. C'est-à-dire, moi, je me demande si la presse anglaise, elle ne s'interroge pas sur certains passages un peu chelous. Moi, voilà, pour lui, il a cité l'Italie, mais il y a des passages, moi, je peux tisser. Bah, il y a Tottenham, il y a Van Eyck. Qui part d'un côté et Vuskovic qui part de l'autre pour à peu près le même chiffre, mais très élevé, 60 millions, 55. Après, il y a, par exemple, je sais pas, il y a Chelsea qui paye Morgan Rogers, c'est le cinquième achat le plus cher de l'histoire du football. Il y a Neymar, il y a Morgan Rogers. Elliot Anderson, c'est le sixième. Mais juste un peu après, il y a Garnacho qui fait le parcours en vert, qui passe de Chelsea à Aston Villa pour 50 millions pour un joueur qui les avait payé 46 millions l'année dernière et qui c'est un achat raté. Après, il y a eu Nicolas Jackson, c'est la même chose, 37 millions il y a deux ans et là il a pris de la valeur. Delap, il a pris le 30% de la valeur en deux ans. Ça, c'est
en
pas
en jouant très peu. Mais oui, c'est ça. Mais ça rejoint la question de Polo. Julien, finalement, est-ce que déjà certains enquêtent, est-ce qu'il y a des regards critiques sur ces montages, ces montants de transfert aussi un peu chelou, pour reprendre le terme de Danielé.
Il y a une presse de gauche qui, avec un peu de hauteur, se dit mais
ça devient n'importe quoi cette inflation galopante. Comment on peut la justifier? À qui ça sert? Comment ça se... Enfin, raconte-nous. Est-ce que c'est critique?
Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'on pose beaucoup de questions, on pense qu'à un moment la bulle va exploser, forcément. Mais après, ça fait plusieurs années qu'on dit ça et ça continue à atteindre des chiffres incroyables. Et encore plus maintenant qu'on est dans ce circuit intérieur, comme ce marché intérieur-là, comme l'a très bien dit Danielé tout à l'heure aussi, où finalement ils ont dit bon, mais pourquoi est-ce qu'on irait acheter ailleurs? De toute façon, autant prendre des joueurs chez nous, de première ligue, même si on va surpayer, au moins ils sont prêts pour la première ligue. Tu te rends service entre clubs. Pour, dans un sens, un petit peu, moi je trouve, en tout cas, contourner le fair play financier anglais qu'ils ont mis en place, ce fameux PSR dont je parle assez souvent.
Une sorte d'accord un peu tacite, non dit peut-être, ou en tout cas, c'est un système que chacun alimente, en disant l'oseille que je paye, il reste dans les caisses de mon championnat, et comme ça on peut lutter contre les règles gauchistes.
Quand Chelsea recrute Rogers, Danielé, personne ne pourra jamais prouver que dans ces réunions-là, à un moment, ils leur ont dit prenez-le à ce prix-là et vous inquiétez pas, on vous prendra Nico Jackson et Garnacho dans 15 jours, 3 semaines.
C'est ça que j'ai dit, c'est qu'il y a quand même une différence entre une boule et un cartel, quoi. Il faut répéter, mais je sais, le football.
J'aime le mot cartel.
Plein d'espace.
Ah, oui, là, c'est...
Tu divances,
mais j'adore le mot cartel, surtout dans un monde libéral qui nous explique qu'il n'y a pas d'entente, rien. C'est fabuleux.
Ici, évidemment, on n'est pas dupes.
Mais non, mais si.
La question, c'est est-ce que.
Monsieur, tout le monde ne le sait pas. Monsieur, tout le monde ne le croit pas.
Est-ce que les médias anglais s'en font le relais, en tout cas, se posent à minima des questions là-dessus, simplement, quoi, c'est ça.
De toute façon, cette année, cet été-là, la dynamique des transferts a changé. C'est la Ligue 1. Mais ça, ils sont toujours venus se servir chez nous. Donc il y a rien de nouveau finalement là-dedans. Mais j'ai l'impression encore plus cette année, parce qu'ils savaient très bien qu'on était à l'agonie financièrement et qu'ils pouvaient venir et faire leur marché tranquillement avec des 10% de réduction, 20%, 30%, etc. Donc ils l'ont fait encore plus que d'habitude. Et après cette évolution où on est venu à l'intérieur encore plus pour, comme on l'a dit tout à l'heure, garder l'argent chez nous, chez soi, pouvoir faire des trucs un petit peu chelous, effectivement, où je te prends lui, tiens, prends-moi lui.
Ouais, non, mais c'est
voilà, ce que par exemple, mais ce que Textor et Marina qui s'avaient fait entre Forest et Botafogo et Lyon et cette petite entente cordiale, etc. Donc, ça peut aussi arriver entre clubs.
C'est vrai.
Pas simplement la première ligue, mais là, t'as vraiment l'impression.
Oui, bien sûr, mais là, c'est
une densité folle.
C'est trop flagrant. Bon,
d'ailleurs, information RMC Sport, on apprend ce soir qu'Arsenal s'intéresse à Malik Fofana. Lyon vaut les 40 environ, on verra combien ils mettront pour Malik Fofana. Qu'est-ce qu'on avait? Moi j'avais aussi Ismaïl Assar à Liverpool, pour l'interrogation encore, ouais. Julien.
Oui, mais il cherche un autre ailier. Donc
combien,
ça
c'est combien ça, Ismaïl Assar? On va dire c'est quoi? C'est 80 millions d'euros maintenant? C'est combien là en Angleterre?
Ouais, voilà, ça, même un petit peu plus. Hein.
On parle de
80 millions de livres pour lui. Mais après, le problème, c'est que ce marché intérieur.
Donc, Ndiaye qui va être à 60. Les deux anciens Marseillais qui ont flopé à Marseille, qui vont partir à 2 pour 150 millions d'euros. C'est magnifique.
Ouais, voire même plus, il est Manandjai. Hein. Je pense que Barcelone veut aussi 80 millions de livres, hein, donc 90 millions d'euros. On est dans des prix hallucinants, mais c'est pour ça que Barcola se vend aussi cher aussi, parce que le PSG a dit attendez, mais Chez vous, il y a des Savigno pour 100 millions d'euros. Donc, à un moment, si Savigno vaut 100 millions d'euros, comme on disait la semaine dernière, Barcola, il vaut facilement 140 millions d'euros.
Oui, mais dans Savigno, il y avait une partie de Marmouche, peut-être aussi. C'est ce qu'on disait.
Oui, aussi. On s'arrange entre amis.
J'ai une question mercato pour toi, Julien, mais pour un joueur qui a coûté beaucoup moins cher, Gabriel Jesus. Les supporters du Barça, là, ils doivent s'attendre à quoi en 2026 de signer ce joueur-là?
Ah bah, il va te mettre un petit peu de, tu vois, de musique brésilienne dans le vestiaire. Il va faire quelques petits pas de danse. Tu vois, c'est un bon gars dans le vestiaire, mais
il va planter un peu ou pas, tu penses, franchement?
Sur le terrain, ça fait quand même deux ans qu'il a, qu'il joue plus. Enfin, voilà, c'est pas le joueur qu'il a été à un moment. Alors, même si, en plus, quand il était à son, on va dire, à son prime, c'était pas non plus ni le plus efficace, surtout en termes de, tu vois, en termes de buts, hein, sa meilleure saison, je crois qu'elle est à, en championnat, elle doit être à 12 buts ou 14 buts, je dirais, avec City sûrement, mais il a jamais fait plus en championnat que ça. Et puis c'est vrai que, tu vois, c'est 14 matchs de saison, 14 matchs de première ligue la saison dernière, 17 le match d'avant, très petite titularisation aussi.
Ça coûte 10 millions d'euros au Barça.
Non mais c'est
un bien entendu, on sait jamais, il peut rendre des services, tu sais pas, voilà quoi.
Bah, pour sortir du banc, pour être titulaire des fois des matchs moins importants quand il y a avec des champions, voilà.
Bon, écoute, on verra.
Parce qu'Arsenal, on s'est dit à un moment, on n'arrivera pas à le vendre, c'est pas possible, personne viendra pour lui, hein. Le Napoli un petit peu chez Daniele parce qu'ils aiment bien ce genre de joueur là aussi en Italie, c'était un petit peu manifesté, mais après à un moment ils se sont dit on va encore le garder parce que personne n'en voudra, et puis cette offre là elle arrive de façon miraculeuse.
Bon, on va suivre ça, le mercato qui se termine quand chez toi comme chez nous? Demain, mon cher Julien? Mardi, ouais, ça, demain, exactement. Mardi. Minute première de la soirée, elle est espagnole, envoyez la musique s'il vous plaît. Waouh.
Je mets des habilles.
Ah ouais, d'accord, c'est un remix. Ça bouge. Faut que ça bouge de la tête en studio chez vous. Bah oui, attends. On est le 31 août, je me suis dit c'est la dernière émission en août. Faut prolonger un peu l'été, on va mettre un peu de house espagnol, tu vois. Juste, ça s'appelle El House. Hector plutôt, et on va parler justement de celui qui est peut-être le tube de cette fin d'été en Espagne, ou qui peut le devenir, Yassir Zabiri, jeune attaquant marocain de 21 ans, prêté par le Stade Rennais, et il a vécu sa première titularisation avec le Racing Santander ce week-end contre Elche. Résultat, 3-0 en 36 minutes, 3 buts de Zabiri, un triplé qui montre en plus des qualités différentes à chaque fois, avec un pressing sur le gardien pour le premier, un appel en profondeur pour le deuxième, une reprise de voler presque en ciseaux sur le troisième. Zabiri, souvenez-vous, il avait été meilleur buteur et vainqueur de la Coupe du Monde du Vin il y a moins d'un an avec le Maroc. C'est là qu'il avait explosé. Et là, il est déjà en train de marquer une page de l'histoire du Racing, parce que ça faisait 22 ans qu'un joueur de Santander n'avait pas marqué un triplé en Liga. Et surtout, ça faisait 14 ans que le club n'avait plus gagné en Liga. Depuis, il avait passé un bon moment en 3ème division, puis un passage en 2ème, évidemment, pour en arriver à son retour dans l'élite. Donc, et ce triplé de Yassir Zabiri face à Elche ce week-end, victoire 3-2, et c'était l'un des tubes du week-end. On verra si ça se transforme en tube de l'été.
Bon, il était un petit peu aidé, c'est vrai, par le gardien d'Elche, hein, également notre ami.
Ah oui.
Emery, voilà.
Ça... Et par la défense aussi, hein, on peut y aller. Hein.
Ouais, on peut y aller. Merci Edgar pour ta minute musicale. Pas sûr que j'écoute ça ce soir en rentrant chez moi quand même.